Si l'homme et la femme doivent attendre une génération d'en haut, comment faut-il comprendre la parole de l'Écriture qui dit « croissez et multipliez » ?
Voilà, croissez et multipliez, remplissez la terre, soumettez-la. Alors, c'est l'ordre de la prolifération, on l'a toujours compris ainsi. Ayez de nombreux enfants, ayez des familles nombreuses, occupez les terres. Et quand vous aurez bien grandi, eh bien, vous envahirez de plus en plus de territoires. Croissez, multipliez. Et encore aujourd'hui, c'est le même principe que l'on applique dans la morale conjugale, où l'on exhorte les époux à affronter d'innombrables douleurs de l'enfantement et de l'éducation, parce que Dieu a dit croissez, multipliez. En réalité, cette traduction latine est le plus formidable contresens qu'il y a eu dans l'Écriture. Car certains textes hébreux ont été très mal traduits, soit en grec, soit en latin, et surtout dans les langues vulgaires. Il faut donc revenir au texte hébreu pour voir exactement ce que Dieu a dit. Croissez et multipliez. Croissez signifie effectivement développez-vous. Développez-vous, soyez grand. Et multipliez, exactement, ça veut dire porter du fruit. Porter du fruit. Le Christ, d'ailleurs, de nouveau, a dit à ses apôtres, « La volonté de mon Père, c'est que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Demeure. Et ensuite, remplissez la terre, soumettez-la et dominez, alors on traduit comme ça, dominez sur les animaux des champs, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. En réalité, le texte est le suivant. Soyez grands, portez du fruit, remplissez la terre, mais en surpassant les animaux des champs, les poissons de la mer et les oiseaux du ciel, en surpassant. Ce mot « en surpassant » vient d'un mot hébreu qui veut dire « être au-dessus de ». Au-dessus, c'est-à-dire qu'il faut être transcendant. Or, comme le commandement porte sur le mot « porter du fruit », cela veut dire que l'homme doit porter du fruit en étant au-dessus des animaux.
Dans le domaine de la génération.
Et il faut bien traduire « porter du fruit, mais en surpassant ». Mais, il y a là une copulation hébraïque qui est employée très souvent dans le livre des Proverbes, où il faut traduire par « mais », qui fait une opposition entre la première partie de la phrase et la deuxième partie. Donc, la traduction exacte, c'est « Soyez grands, développez-vous, portez du fruit, dominez la terre, etc. Mais en étant au-dessus des animaux. » C'est-à-dire que la génération humaine est prescrite, mais non pas en conformité avec le monde animal, mais en supériorité, en transcendance par rapport au monde animal.
Ce qui se comprend bien si on a l'idée que l'homme et la femme sont l'image et la ressemblance de Dieu.
Voilà. C'est justement dans le domaine de la génération que va se marquer la véritable vocation, la véritable dignité de l'homme. D'ailleurs, nous ne pouvons pas hésiter sur l'interprétation de ce mot. Porter du fruit en surpassant les animaux, parce que l'explication de ce précepte est donné immédiatement dans le livre 2 de la Genèse qu'on lit, où là, Dieu s'adresse à l'homme en lui précisant « Tu as deux arbres dans le paradis, l'arbre de la vie que tu peux manger et l'arbre de la connaissance du bien et du mal que tu ne mangeras pas, sinon tu mourras de mort. » Donc, Dieu interdit à l'homme une génération qui n'est pas selon sa volonté à lui et en même temps selon la dignité, la véritable dignité humaine.
Alors, question qui se pose, comment se fait-il que si l'homme et la femme vont à la génération charnelle, ça marche quand même ?
Ça marche quand même. Ça marche quand même, mais ça marche mal. Ça ne marche jamais bien.
Oui.
Parce que l'enfant qu'on appelle à la vie, on lui donne la mort dans la peau.
Oui, déjà.
On n'a jamais vu sur la terre un enfant né charnellement qui ait vécu éternellement. Le fruit n'a pas demeuré, mais il est mort. Si bien que l'arbre dit généalogique, l'arbre généalogique par lequel on établit comment les pères ont engendré tel fils, lesquels ont engendré tel fils, etc. Cet arbre généalogique des familles, des tribus, des peuples, etc. jusqu'à Adam, il y a un grand arbre généalogique. Cet arbre généalogique est un arbre mort. C'est un arbre qui est retourné à la poussière du sol. D'ailleurs, cela est conforme à la sentence que Dieu a prononcée après la faute. À la femme, il a dit « Tu enfanteras tes enfants dans la douleur, c'est un châtiment de la faute. Je multiplierai tes grossesses, c'est aussi un châtiment de la faute. » Or, que la femme est enfantée dans la douleur, c'est une chose absolument évidente et universelle.
Qui prouve bien que la faute était dans le domaine de la génération.
Absolument, absolument. Et malgré tous les procédés médicaux qu'on emploie aujourd'hui, chirurgicaux, pour atténuer plus ou moins les souffrances de l'enfantement, elles sont toujours là. Et ce sont des souffrances horribles. On pourrait citer d'innombrables exemples. Et d'autre part, je multiplierai tes grossesses. Nous nous rendons compte aujourd'hui que la cause d'innombrables malheurs, la cause des guerres et des génocides, réside dans la multiplication du genre humain en progression géométrique. Car, si on fait le calcul de savoir ce qui va se passer lorsque chaque couple humain aura quatre enfants, et si cette génération se reproduit tous les 25 ans comme aujourd'hui. Les femmes, quand elles ont 25 ans, 25-30 ans, elles ont déjà engendré 4 enfants. Elles peuvent avoir engendré 4 enfants. Il y a des femmes qui commencent à engendrer à l'âge de 15 ans, 17 ans. D'ailleurs aussi au Moyen-Âge c'était comme ça. On avait tout de suite des enfants et tout de suite les mères de famille à l'âge de 30 ans, 35 ans, elles avaient toute une kyrielle de gosses qui traînaient derrière eux. Derrière elle. Par conséquent, voyez-vous, nous avons proliféré. Et cette prolifération devient fantastique au cours des générations. En effet, si l'on fait le calcul avec une raison géométrique de raison 2, c'est-à-dire chaque couple a 4 enfants, et en supposant que tous les enfants vont survivre et vont pouvoir à son tour avoir des enfants, il suffit de 750 ans pour appeler sur la Terre 1 milliard d'individus. Et il suffit de 1000 ans pour appeler sur la Terre 1000 milliards d'individus. En ne comptant que la dernière génération. Voilà le calcul.
Ce qui prouve que la mort a régné.
Ce qui prouve que l'humanité, depuis les origines, a toujours survécu à la limite des ressources alimentaires. Que la terre habitable et cultivable a toujours été surpeuplée. Et que les hommes, en passant sur la terre, ont dévoré la terre et ont créé des déserts immenses, comme dans toute l'Asie centrale, comme dans le Sahara. Toutes les régions tropicales de la terre sont devenues désertiques. Elles ont été dévorées par les hommes. Et là, nous avons fait un calcul en supposant que la femme ne porte que 4 enfants. Mais en a-t-il toujours été ainsi? Si l'on consulte les textes anciens, effectivement, on s'aperçoit que le nombre des enfants portés par une femme a toujours été plus grand. Par exemple, dans le chant 14 de l'Iliade, on entend Paris, le roi de Troie, supplier Achille d'arrêter la guerre. Et il lui dit, « Tu as déjà massacré mes 50 fils. » Il avait donc 50 fils de plusieurs femmes. On lit dans l'Écriture sainte qu'Abimélec avait 70 frères. Et si l'on prend la généalogie de David, on voit combien il avait de femmes et combien il avait d'enfants. Donc la raison de la progression a été toujours supérieure à deux. Et c'est pourquoi il y a eu un nombre formidable d'enfants qui n'ont pas pu survivre et qui sont morts en bas âge. Nous avons donc récolté la mort.
Nous avons récolté la mort et finalement c'était logique puisque une semence corruptible ne peut pas donner une vie impérissable.
Ne peut pas donner une vie impérissable. Alors si Dieu avait interdit cette génération charnelle, c'est parce qu'il prévoyait que par cette semence corruptible allait se développer une hérédité de plus en plus lamentable. Et aujourd'hui qu'on peut examiner les chromosomes dans les gènes, on s'aperçoit que les gènes humains sont profondément altérés et que nous portons dans nos gènes au moins 1400 maladies génétiques qui sont là, prêtes à surgir. Voilà où nous en sommes. Ce qui veut dire que l'homme, évidemment, pouvait engendré charnellement, il l'a fait. Il l'a fait. Et si Dieu a interdit cette génération, c'est parce que lui prévoyait ce qui allait arriver. Et qu'une semence corruptible ne pourrait pas donner l'immortalité.
Évidemment.
Évidemment. C'est d'ailleurs ce que saint Pierre lui-même dit dans sa première épître. Par le Christ, vous avez été arrachés à la folle tradition de vos pères. Et désormais, dans le Christ, vous n'avez pas été engendré d'une semence corruptible, mais vous avez été réengendré d'une semence incorruptible qui est la parole de Dieu. Mmh. Voilà. Donc, ce qui a été fait dans la régénération baptismale, selon la foi des apôtres et de l'Église, c'est précisément ce qui aurait dû être fait avant, dans une génération sainte. Comme le fut celle du Christ et de la Vierge.
Voilà. Quoi qu'il en soit, l'homme qui va à la chair peut avoir un enfant.
Il peut avoir un enfant, c'est exact.
Dieu a laissé cette possibilité.
Il a laissé cette possibilité.
Interdite en fait.
Interdite. Alors, pourquoi cette alternative? C'est parce que l'homme est une créature rationnelle. C'est-à-dire qu'il doit poser des actes raisonnables dont il peut prévoir l'issue. Par exemple, quand un horloger fabrique une montre, il ne met pas les rouages au hasard dans un boîtier, il agite le tout avec un peu d'huile et la montre est faite. C'est pas vrai, ça ne marchera certainement pas. Mais s'il veut faire une montre, il doit tailler les rouages avec la plus extrême précision, les placer avec la plus extrême précision. Et quand il a fait ce travail minutieux, alors qui est raisonnable, qui est calculé, à ce moment-là, la montre marchera. Ce n'est pas ici le cas de faire l'histoire de l'horlogerie, qui est une histoire merveilleuse, merveilleuse, pour montrer que vraiment ça a été l'application la plus délicieuse, la plus délicate de la rationalité humaine sur la mécanique. Eh bien, de même, quand il s'agit de faire un enfant, il faut pouvoir être sûr que ça marchera.
Oui.
Que cet enfant ne sera pas débile, que cet enfant aura une bonne santé, qu'il aura un cerveau bien équilibré, qu'il aura dans le cœur des sentiments qui sont conformes à la nature humaine. Aucun homme ne peut appeler un enfant à la vie en ayant la certitude que son enfant sera un enfant surdoué, un enfant parfait, supérieurement intelligent, c'est impossible.
Donc,
il est obligé de jouer au hasard.
Voilà. Il pose un acte irrationnel, en fait.
Il pose un acte irrationnel que les animaux peuvent poser de la même manière.
Donc un acte qui finalement est indigne de l'homme.
Est indigne de l'homme. Alors, pour que la génération soit juste, il faut qu'elle soit posée dans un esprit de piété et d'obéissance à la loi de Dieu. À ce moment-là, l'homme, devant Dieu, doit lui rendre un culte, c'est-à-dire offrir un sacrifice. Or, quel est le sacrifice véritable qu'Adam pouvait offrir alors qu'il n'y avait pas de temple à Jérusalem, alors qu'il n'y avait aucune prescription rituelle? Il y avait seulement dans sa nature une alternative. Est-ce que je vais avoir des enfants selon la chair? Est-ce que je vais faire autrement? Dieu m'a dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire, tu ne vas pas t'aventurer dans une génération où tu vas récolter du bien et du mal.
Le hasard.
Donc, en se mettant devant Dieu, il doit poser cet acte d'obéissance qui est un sacrifice de justice, comme le dit le psaume 4. Offrez à Dieu le véritable sacrifice de justice. Ce sacrifice consiste à dire à Dieu, je te laisse l'initiative de la paternité et je t'offre le corps de ma femme pour que ton Esprit Saint lui-même, Esprit créateur et vivifiant, féconde ce sein. Selon l'oracle du prophète, c'est la Vierge qui concevra et qui enfantera un fils, et alors Dieu sera avec nous. Il fallait donc qu'Adam vive dans un état de piété, d'obéissance à la parole de Dieu, pour rendre à Dieu le sacrifice qui lui est agréable. Et c'est précisément ce même sacrifice que l'Église demande aux prêtres. Un homme veut-il être élevé au sacerdoce, l'Église lui dit, attention, tu vas d'abord faire le vœu de chasteté. C'est-à-dire que tu promets que tu ne t'accoupleras jamais avec une femme, que ce soit dans le mariage ou hors du mariage. C'est le vœu de chasteté que faisait le sous-diacre lorsqu'il était appelé à faire le pas. Et c'était très émouvant, cette cérémonie. Le jour où on voyait ces jeunes gens qui étaient là, qui venaient de se prosterner devant Dieu pour réciter les litanies des saints, ceux qui étaient les modèles de l'Église. Ils avaient récité les litanies des saints en disant « Priez pour nous, Saint-Pierre, priez pour nous, Sainte-Agnès, priez pour nous, Sainte-Cécile, priez pour nous. » Ils se relevaient. Épaulés par tous ces saints qui avaient gardé la chasteté, et alors là, debout, l'évêque leur disait, si vous voulez revenir en arrière, c'est-à-dire si vous voulez revenir comme dans le monde, avoir une famille et des enfants, vous pouvez encore vous en aller. Si, au contraire, vous voulez vous élever vers le sacerdoce, faites un pas en avant. Après quoi, votre décision sera définitive. Et alors, on voyait ces jeunes gens faire ce pas en avant. Et dans toute l'assemblée chrétienne, il y avait une sorte de... On retenait sa respiration. On retenait sa respiration et on entendait un grand soupir et on disait, ça y est, voilà, ils sont partis. Ils sont partis dans un autre monde. C'était formidable, je me souviens. Le jour de mon ordination, c'était comme ça. Et alors, voilà que le prêtre va offrir le vrai sacrifice agréable à Dieu. Il va devenir un adorateur du Père en esprit et en vérité. Lorsque la Samaritaine a rencontré le Christ et lui a donné à boire, ça a été justement l'objet de la question. Quand la Samaritaine a dit au Christ, « Oh, je vois que tu es prophète parce que tu m'as dit tout ce que j'ai fait. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour plaire à Dieu ?» Alors le Christ lui a dit, « Mais tous vos rites que vous faites actuellement, que vous les fassiez à Jérusalem ou les fassiez sur ce mont Garizim ici, hein, tous ces sacrifices que vous offrez, c'est nul. Ce que le Père demande, c'est l'adoration en esprit et en vérité. Et maintenant, le temps est venu où il y a sur la terre des adorateurs en esprit et en vérité. Et les adorateurs en esprit et en vérité, c'était justement Joseph et Marie qui nous avaient donné le Christ, ainsi que Anne et Joachim qui nous avaient donné l'Immaculée Conception. Voilà les adorateurs en esprit et en vérité. Et c'est là que l'évangile vraiment commence, par un changement de génération.
On perçoit tout de suite qu'il y a une grande différence entre le sacerdoce nouveau et le sacerdoce ancien, celui d'Aaron.
Effectivement, parce que dans l'Ancien Testament, il y a également deux testaments. Il y a l'Ancien et le Nouveau Testament. Il y a deux générations. Il y a la génération charnelle et la génération spirituelle, qui se fait par l'Esprit Saint, par la puissance créatrice de Dieu. Il y a deux testaments, il y a deux générations et il y a deux sacerdoces. Le sacerdoce d'Aaron était ordonné à maintenir cette génération ancienne du peuple d'Israël, qui se reproduisait par la génération charnelle. Et alors, il fallait rappeler à ce peuple que la mort était la conséquence de leur choix. C'était justement les sacrifices sanglants qui indiquaient au peuple qu'il faudrait sacrifier les mâles, c'est-à-dire sacrifier la génération charnelle. Alors que les Égyptiens autrefois adoraient le taureau qui est le signe justement de la prolifération animale, eux, les Juifs, ils devaient sacrifier le taureau. Ils devaient sacrifier le bélier. Voilà. C'était... Et en même temps, ainsi, en faisant couler le sang de ces animaux, ils savaient que si le sang coule dans le monde, c'est parce qu'il y a une génération animale. C'était tout l'esprit de la loi ancienne. Dieu tolérait cette loi ancienne par les prescriptions rituelles et les prescriptions de pureté, les sacrifices et les ablutions et les oblations, etc., tout un ensemble de rites qui assurait quand même au peuple de Dieu une certaine santé, un certain équilibre familial.
Oui.
On pourrait expliquer toutes ces choses qui font que c'est parce que les Juifs avaient ces lois qu'ils sont demeurés. La seule race qui soit demeurée dans le monde, c'est la race juive. La race gauloise a disparu, les races allemandes du Nord ont disparu, les Wikings ont disparu, les anciens Indiens ont disparu. Tout ça, ça s'est multiplié, ça s'est proliféré, en perdant les langues, en perdant les cultures, en perdant les civilisations. Tandis que la race juive est demeurée à cause de la solidité de la loi, qui était gardée par le sacerdoce d'Aaron.
Alors Dieu exigeait un sacrifice sanglant, c'était donc pour montrer à l'homme qu'il avait commis une faute,
oui.
Et que normalement il méritait la mort. Et
normalement il méritait la mort.
Donc Dieu, par miséricorde, faisait tomber la mort non pas sur lui, mais sur l'animal qu'il offrait.
Voilà. Normalement, il aurait dû sacrifier son premier-né. Comme le dit le prophète, d'ailleurs, Michée, dans un passage très remarquable, il dit « Vais-je immoler mon premier-né pour que mon péché soit expié ?» C'est formidable.
Ah, oui.
Et Dieu exigeait le sacrifice du premier-né. Mais, il dit non, à la place du premier-né, tu vas m'offrir un animal. C'est fantastique, ces lois.
Oui, oui.
Elles sont terribles, ces lois.
Oui, elles sont terribles et elles montrent que Dieu a vraiment été offensé par une génération charnelle.
Exactement. Voilà donc l'Ancien Testament. Mais à partir du Nouveau Testament, c'est une alliance nouvelle. Voici la nouvelle alliance de Dieu avec vous, qui a été prescrite dans l'Eucharistie par le Christ. En même temps qu'il a institué le sacerdoce nouveau, en même temps qu'il a institué l'Eucharistie, il a institué le sacerdoce nouveau et l'alliance nouvelle, qui est une alliance virginale et eucharistique.
Oui.
Et désormais, ceux qui sont élevés au sacerdoce devront renoncer à leur père, à leur mère, à leur gosse, à leur smala, à leur possession terrestre, sinon ils ne peuvent pas être les disciples du Christ. C'est impossible. Il faut renoncer à la génération charnelle. Pourquoi ? Pour être les témoins de la génération véritable qui sera virginale comme a été celle du Christ.
C'est ça.
Et cette alliance, attention, ceci est la nouvelle alliance en mon sang.
Oui.
Le testateur a répandu son sang en témoignage de l'alliance. Par conséquent, un prêtre qui retourne à la chair, il rompt la nouvelle alliance et il offense le sang qui a été répandu pour lui. C'est extrêmement grave.
C'est la nouvelle alliance, d'accord. Mais on dit que le sacerdoce catholique est un sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Or, Melchisédek, c'est bien avant Jésus-Christ.
C'est bien avant Jésus-Christ. Et Melchisédek, c'est le personnage de l'Écriture sainte par lequel la bénédiction est revenue dans le monde. En effet, Melchisédek a béni Abraham. C'est la première fois dans l'Écriture qu'il y a une bénédiction qui est donnée et qui va ramener sur la terre la joie et le bonheur. Il a béni Abraham. Il est plus grand qu'Abraham. Abraham lui a offert la dîme de tous ses biens pour reconnaître la supériorité de son sacerdoce. Or, le prêtre Melchisédek, qui était prêtre du Très-Haut, n'avait ni père, ni mère, ni généalogie. Ça y est.
Il avait rompu.
Il avait complètement rompu avec la famille. Donc, il était la manifestation concrète qu'il s'était opposé à l'ordre humain généralisé sur la terre, où tout le monde se reproduisait de père en fils, de fils en petit-fils, etc., etc. Melchisédek, non, il avait dit non, c'est tout. Tout son sacerdoce réside dans cet acte de renonciation à la génération charnelle.
D'ailleurs, il n'offrait pas des sacrifices sanglants, Melchisédek.
Ah, il offrait un sacrifice pacifique et propitiatoire, de pain et de vin. Exactement ce que le Christ a fait quand il a restauré le sacerdoce de Melchisédek. Car le Christ n'est pas prêtre selon l'ordre d'Aaron. Les Juifs auraient bien voulu avoir un Messie qui soit prêtre selon l'ordre d'Aaron, qui bénisse leur grande famille sacerdotale et qu'il organise d'une façon beaucoup plus précise les rites de la génération, de la bénédiction des enfants, etc., etc. Ça aurait été très bien s'il avait accepté tout ça. Il a dit non, 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 c'est fini, c'est autre chose. Le Christ n'est pas prêtre selon l'ordre d'Aaron. Ce qui faisait d'ailleurs une objection pour les Juifs.
Oui.
Parce qu'ils auraient bien voulu qu'il soit prêtre selon l'ordre d'Aaron. Mais il y avait l'oracle du psaume. Tu es prêtre pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek. Et toutes les épîtres hébreux nous montrent que le vrai sacerdoce du Christ n'est pas selon l'ordre d'Aaron, mais qu'il est selon l'ordre de Melchisédek, par lequel la rédemption a été inaugurée dans le monde par la bénédiction qu'il a donnée à Abraham. Et Abraham, effectivement, il est entré dans cette génération sainte puisqu'il y a été contraint en quelque sorte. Puisque sa femme était stérile et avancée en âge et que c'est Dieu qui lui a donné un fils.
Oui.
Donc si Dieu a donné un fils à Abraham qui était vieux, avancé en âge et que sa femme était stérile, à combien plus forte raison Dieu peut-il donner la vie, une vie impérissable, à une vierge pure qui s'est offerte à lui dans une véritable oblation de piété, dans une adoration en esprit et en vérité. Ça y est, cette fois tout est clair.
Finalement, depuis Melchisédek,
oui,
c'est-à-dire depuis 2000 ans avant Jésus-Christ,
avant Jésus-Christ.
Les prêtres de la Nouvelle Alliance offrent le pain et le vin.
Offrent le pain et le vin, toujours dans le souvenir de Melchisédek. Le vrai sacerdoce aujourd'hui est celui de Melchisédek, s'il n'y a plus de prêtres juifs. Depuis la destruction du temple de Jérusalem, le sacerdoce juif a disparu. Il est impossible de trouver un prêtre d'Aaron aujourd'hui. Le sacerdoce est celui de Melchisédek, qui est celui de l'Église en vue du royaume. Et les prêtres offrent, comme Melchisédek, le pain et le vin. Pourquoi offrir à Dieu du pain et du vin ? Évidemment, Dieu ne va pas manger du pain et boire du vin.
Oui.
Non. Il offre le pain et le vin pour que ce pain devienne le corps du Christ et que ce vin devienne le sang du Christ. De sorte que son Église épouse sera nourrie par le corps et le sang du Christ qui vont venir chez le fidèle, qui aura la foi, qui vont entrer chez le fidèle pour que le fidèle soit élevé au niveau du Christ et qu'il y ait une greffe vitale profonde par laquelle le corps du Christ va réparer les déficiences de notre nature charnelle. C'est le but principal de l'Eucharistie, c'est que le Christ est venu comme sauveur et rédempteur pour réparer son propre ouvrage.
D'ailleurs, il le dit, hein, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang
aura la vie en lui-même.
Voilà, et ne mourra pas.
Et ne mourra pas. Ce n'est pas ici comme ce pain qu'ont mangé vos pères dans le désert, c'était la manne qui tombait du ciel. Ce n'était pas le vrai pain du ciel, cette manne, parce que vos pères sont morts dans le désert. Tandis que celui qui mangera ce pain que je donnerai, ma chair pour la vie du monde, il ne mourra jamais. Voilà la promesse. Évidemment, si les chrétiens avaient conformé leur foi à l'exactitude de cette promesse, il y a bien longtemps que nous aurions eu la rédemption.
Oui, parce que finalement, le grand problème est là, c'est que la rédemption pleine, c'est-à-dire le salut du corps, la suppression de la mort, n'est pas encore accomplie.
Mais c'est la promesse du Christ.
Oui.
Et derrière ce sacrement eucharistique, il y a tout un enseignement. D'ailleurs, le mot sacrement veut dire serment sacré. C'est-à-dire, c'est une parole assurée, prononcée sous serment, que le Christ nous a donnée, lui qui ne peut ni se tromper ni nous tromper. Il y a un serment sacré. Sous ce sacrement eucharistique, il y a tout un enseignement, à savoir l'oblation du corps, comme le dit saint Paul dans l'Épître aux Romains. Offrez vos corps à Dieu comme une oblation sainte, parfaite, agréable à Dieu. Si bien que, en offrant la coupe, le prêtre offre la coupe véritable, parce que le mot coupe, en hébreu, signifie la femme. Quand Dieu crée l'homme et la femme, Nikoba, il les a faites homme et femelle, femme, Nikoba, Nikoba veut dire la coupe.
C'est la coupe non faite de main d'homme. Dans laquelle d'ailleurs est venu résider le Christ
lui-même. Qui a inauguré le salut.
Oui.
Par sa génération sainte. Par conséquent, dans l'Eucharistie, il y a le rappel vivant, efficace, de cette génération du Christ qui est venue dans la coupe véritable, non faite de main d'homme, où il a pris chair. De même, le prêtre offre le pain qui va devenir le corps du Christ, par lequel le Christ époux va nourrir son Église de sa propre chair. Nous avons donc ainsi l'enseignement qui nous est donné par saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens. Hommes, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église, dont nous avons parlé précédemment. Ainsi, l'Église est engendrée par le Christ, par son corps, tout comme le Christ est engendré par le Père éternellement, et comme la femme a été engendré de l'homme et doit continuer à être engendré de l'homme.
Maintenant, quand on regarde l'histoire de l'Église, on voit que pendant 2000 ans, c'est long tout de même, eh bien, on n'a pas obtenu l'accomplissement des promesses, c'est-à-dire la suppression de la mort, et puis on n'a pas vu non plus la génération sainte.
Oui,
alors comment expliquer ce retard, si on peut dire, de la rédemption, de la pleine rédemption, j'entends.
C'est ça. L'Église n'a pas invité les chrétiens, d'une façon précise, à cette génération sainte par laquelle le Christ est venu en ce monde et qui reste l'archétype de la génération humaine. L'Église n'a pas invité les chrétiens sur ce point. Elle les a invités à la virginité, d'accord, puisque finalement, dans la tradition de l'Église, la virginité sacrée est une constante. Pas de problème. Mais cette virginité est restée stérile. Et finalement, pour garder la virginité, on a séparé les sexes. Ce n'était pas la pensée des apôtres, nous l'avons vu. Eh bien, on peut voir les raisons de ce retard de la rédemption dans les écrits des apôtres eux-mêmes, notamment dans saint Paul. Parce que finalement, très rapidement dans l'Église, on a eu l'influence des judaïsants. Ça a été le gros problème de la communauté apostolique. C'est-à-dire qu'un certain nombre de juifs devenus chrétiens ont voulu conserver, non pas la circoncision elle-même au sens organique du mot, si je peux dire, mais ce que la circoncision signifiait pour eux. C'est-à-dire qu'ils s'imaginaient que du fait qu'ils étaient circoncis, ils auraient le droit d'avoir des enfants selon la chair pour prolonger la génération d'Abraham. Comme si la circoncision et les rites de la loi, justifiaient la génération charnelle.
Ça, c'était la pensée de la loi ancienne.
C'était la pensée de la loi ancienne. Et saint Paul s'est heurté à ces chrétiens venus du judaïsme, qu'on a appelé les judaïsants d'ailleurs, et il s'est heurté contre ce retour à la chair, ce retour à la chair sous le couvert de la circoncision et de la loi de Moïse. Et il leur dit avec une grande sévérité, si vous voulez de nouveau être circoncis, sous-entendu pour revenir à la génération charnelle, vous êtes déchus de la grâce et le Christ ne vous sert de rien. L'épître aux Galates sur ce point est d'une précision extrême. Et on sent toute la douleur de Paul de dire à ses chers Galates, mais enfin vous n'avez donc rien compris. Après avoir goûté les dons de l'Esprit-Saint, voici que vous voulez revenir à la servitude de la loi. Le Christ vous a délivré de la servitude de la loi.
Oui. Alors ça peut se comprendre pour les juifs.
Oui.
Mais pour les païens devenus chrétiens.
Les païens devenus chrétiens ont été très influencés par ces doctrines des judaïsants. Parce que les judaïsants ont passé derrière saint Paul et ont cru compléter en quelque sorte l'enseignement de saint Paul en leur disant non, si vous voulez être justifié, il faut aussi observer la loi de Moïse. Et cette ambiguïté n'a pas pu être levée. Si bien qu'à la fin de la deuxième aux Corinthiens, dans le chapitre 11, il y a un passage qui est extrêmement saisissant, où saint Paul dit à ses fidèles de Corinthe, qu'il aime beaucoup, auprès desquels il était resté pendant 2 ans pour les instruire, il leur dit, je vous avais fiancé au Christ comme une vierge pure, mais je crains fort que vous vous laissiez maintenant séduire par le serpent comme Ève a été séduite. C'est-à-dire, vous retombez dans la prévarication originelle, celle de la génération ancienne. Et sur la fin de sa vie, Paul écrit à Timothée, « Tous m'ont abandonné. Mais toi, Timothée, garde le bon dépôt de la foi, confie-le à des hommes sûrs, car je suis certain que le Seigneur le gardera jusqu'à ce jour-là, c'est-à-dire jusqu'au jour de son retour. Or, le jour de son retour, notre Seigneur l'annonce à ses apôtres en leur disant, « Vous qui avez tout quitté pour me suivre. » Justement, eux, les apôtres, ils avaient quitté la génération charnelle. C'était bon, c'était fini. « Vous avez tout quitté pour me suivre. » Eh bien, lors de la régénération, vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël lors de la régénération. Donc, nous devons croire que la régénération, c'est-à-dire le renouvellement de la génération, c'est-à-dire le changement de génération, on passera de la génération charnelle à la génération spirituelle avec l'autorité de Jésus-Christ lors de son retour. Il inaugurera à ce moment-là le règne de Dieu sur la terre, et ce règne de Dieu ne peut pas venir sans que le nom du Père soit sanctifié. C'est un changement biologique radical qui doit amener l'Esprit Saint fécondateur pour que les hommes naissent fils de Dieu.
Dans les premiers temps de l'Église, certes, il y a eu l'influence des judaïsants.
Oui.
Mais il y a quand même eu, très rapidement, le Concile de Jérusalem qui, au niveau de la loi, a dit non. On ne retournera pas à la loi de Moïse.
C'est ça.
Donc, normalement, on aurait dû comprendre.
Bien sûr qu'on aurait dû comprendre. Saint-Pierre était bien d'accord avec Saint-Paul. Les apôtres portaient un témoignage unanime au Concile de Jérusalem. Cependant, les judaïsants qui étaient là n'ont pas voulu se soumettre à cette prescription des apôtres. Sans doute parce que l'explication n'a pas été donnée clairement. En effet, on voit bien que dans le décret du Concile de Jérusalem, où il était question de savoir si on allait soumettre les païens à la circoncision, oui ou non.
Donc
voilà le problème.
C'était très important.
C'était très important. Eh bien, Saint-Pierre a dit, non, il ne faut pas obliger les païens à se soumettre à la loi de Moïse. Bon, il n'a donné aucune explication. Il aurait dû expliquer, il aurait dû mettre en lumière cette génération du Christ comme étant le vrai modèle de la génération humaine. À ce moment-là, les païens comprenaient très bien.
Oui.
Et alors Saint-Pierre aurait dû leur dire, si vous avez la foi et que vous appliquez la foi, et que la foi n'est pas morte sur elle-même, mais que vous savez en tirer les conséquences pratiques, aucun problème, vous n'êtes plus soumis à la loi ni à la circoncision. Faites-vous circoncire si vous voulez, mais vous n'êtes pas obligé. Par contre, si vous voulez de nouveau revenir à la génération charnelle, à ce moment-là, il faut que vous soyez circoncis et que vous observiez toutes les prescriptions de la loi pédagogique dont vous aurez besoin pour discerner le péché et pour vous tirer d'affaire. Et voilà, à ce moment-là, eh bien, on aurait eu une église parfaitement éclairée, car le Christ avait dit, aucun iota de la loi ne disparaîtra, il faut que tout soit accompli. Il fallait avoir l'intelligence de la loi.
Et l'intelligence de la foi.
Et ce qui a manqué, vraiment, c'est la véritable explication sur la génération humaine. Tel est précisément l'objet du livre de Marie-Pierre, ici présente, « Ce qui a manqué », qui est une explication des actes des apôtres.
La question qui nous fait languir, surtout après 2000 ans de christianisme, c'est quand donc viendra-t-elle cette précieuse rédemption ?
Elle viendra lorsque les chrétiens se disposeront d'une façon parfaitement intelligente et rationnelle, à sanctifier le nom du Père. Car le Christ est venu quand la foi l'a appelé dans le monde, c'est-à-dire la foi de ceux qui l'ont engendré. Si la foi nous a amené le Christ dans sa première venue, c'est aussi la même foi qui l'amènera dans sa deuxième venue. Saint Paul le dit, il n'y a qu'une seule foi.
Donc alors il faut espérer la pleine rédemption avec le retour du Christ.
Il faut l'espérer avec le retour du Christ, mais le retour du Christ viendra dans un milieu bien préparé par une foi exacte.
Oui.
D'ailleurs, en fait, si on avait tenu compte des enseignements de Saint Jean-Baptiste, qui a commencé son enseignement en disant « race de vipère », c'est-à-dire vous êtes les fils de la vipère et non pas le fruit de l'évolution des primates supérieurs. Vous êtes issus de la vipère, c'est-à-dire du diable qui vous a séduit. Faites pénitence. Arrachez-vous à cette prise diabolique. Et si les Juifs du temps du Christ avaient pris conscience de cet enseignement de Jean-Baptiste, vraiment, ils auraient fait la pénitence. Ils seraient tous entrés dans la foi de Saint Joseph et de Sainte Marie, cette foi unique, et l'Église aurait porté la rédemption tout de suite. Mais comme l'ambiguïté est restée sur ce problème si important de la génération, eh bien la rédemption est remise toujours à plus tard. Et on est obligé, à chaque génération, évidemment, d'avoir des orphelinats, d'avoir des collèges, d'avoir des ordres religieux qui s'occupent des lépreux, qui s'occupent des malades, qui s'occupent d'enterrer les morts, qui s'occupent de faire toutes sortes de consolations dans le cœur humain, parce que nous ne sommes pas adaptés à la vraie pensée du Père. Voilà.
Oui. Oui, on n'a pas beaucoup progressé depuis la première parole de Jean-Baptiste.
On n'a pas beaucoup progressé depuis la première parole de Jean-Baptiste.
En fait, l'Église a donné la filiation adoptive.
Oui.
Ça, c'est sûr.
Bien sûr, par le baptême.
Voilà. Mais alors, c'est le royaume du Christ qui nous donnera la génération sainte.
Oui. Mais lorsque Saint Jean-Baptiste invitait les Juifs à la pénitence, à un changement de mentalité, le Christ, en commençant son ministère, leur dit « Le royaume de Dieu s'est approché de vous. » Ce royaume de Dieu, que nous attendons encore aujourd'hui, ce royaume de Dieu était là. Il l'avait vécu, lui, Jésus, à Nazareth, pendant 30 ans. Il fallait donc s'en emparer. Et nous en sommes toujours au même point. Il faut nous emparer du royaume de Dieu.
Oui, c'est pas perdu pour autant.
C'est pas perdu pour autant, puisque Léon XIII a proposé la Sainte Famille comme le modèle universel et absolu de toute vertu chrétienne pour qui, quelque chrétien que ce soit. Donc, suivons les enseignements de Léon XIII et imitons la Sainte Famille. Ouais. C'est bon.
Alors, est-ce qu'on peut penser qu'on est proche de ces temps-là?
Oui, on est proche de ces temps-là. Parce que on commence à prendre conscience du désastre dans lequel nous sommes tombés. Et il y a un moment où on en a ras-le-bol. Aucun système politique, aucun sage de ce monde, aucune invention technique ou scientifique ne peut nous tirer du pétrin. La mort est universelle, la maladie devient universelle, si bien que nous sommes obligés cette fois de nous tourner vers Dieu et de dire « Seigneur, viens à notre secours ». Les temps de la grande conversion sont proches. Parce que nous y sommes contraints. Tout comme le pharaon a été contraint de se convertir parce qu'il y a eu les plaies d'Égypte qui lui sont tombées dessus. Il n'a pas voulu croire Moïse sur parole, mais les châtiments qu'il a subis l'ont obligé à prendre conscience de la puissance que Dieu voulait exercer sur son peuple.
Mais alors ce royaume du Christ, il sera terrestre.
Il y a un royaume terrestre du Christ qui est parfaitement annoncé dans l'Apocalypse au chapitre 20. Il y a un royaume terrestre du Christ qui commencera par le jugement des nations. Lorsque le Christ reviendra assis sur son trône, il rangera les nations devant lui, il mettra les boucs à gauche et il mettra les brebis à droite, etc. C'est le chapitre de Saint Matthieu qui nous annonce ce qu'on appelle le jugement dernier. C'est le jugement des nations qui inaugurera le royaume du Christ et son royaume universel. Il reviendra dans tout l'éclat de sa majesté et les hommes devant lui se frapperont la poitrine. Voilà ce qui est écrit. Donc nous sommes assurés que l'humanité ne finira pas dans une catastrophe universelle et à la destruction totale de la chair humaine, non. Ce qui disparaîtra, c'est le monde d'iniquité dans lequel nous sommes. Et la vérité viendra sur la terre et apportera les temps du renouvellement et du rafraîchissement que Saint Pierre prévoyait déjà le jour de la Pentecôte.
En fait, c'est la demande du Pater que les chrétiens ont dite tous les jours.
Oui.
Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel.
Sur la terre comme au ciel. Il faut bien entendre ainsi le Pater, que ton nom soit sanctifié sur la terre comme il est sanctifié dans le ciel. Que ton règne s'établisse sur la terre comme il est établi dans le ciel. Que ta volonté soit faite comme elle est accomplie, cette volonté, dans le ciel. Il faut que ce soit sur la terre que descende cet accomplissement de la volonté de Dieu. Et pourquoi est-ce que on a tant tardé à recevoir la rédemption? C'est parce qu'on s'est imaginé dans les premiers temps, jusqu'à Julien l'Apostat, que l'Évangile allait transformer la société des hommes, simplement par les lois morales du Christ, par le pardon des injures. Alors on ouvrait toutes les prisons pour la fête de Pâques, et alors c'était la grande jubilation parce que c'était la liberté chrétienne qui arrivait dans le monde. Et on s'est aperçu que ça ne marchait pas, et qu'il y a eu de grandes catastrophes, notamment la prise de Rome par Alaric. Alors saint Augustin, voyant que cette espérance du royaume terrestre n'était pas accomplie, a écrit un livre qui s'appelle « La cité de Dieu », dans lequel il explique que, mon royaume n'est pas de ce monde, c'est vrai, mon royaume n'est pas de ce monde. Alors, eh bien, la rédemption, c'est seulement le fait que l'immortalité de l'âme, voilà, ça y est, l'homme sur terre, bon, bien, il est là pour vivre pendant un certain temps, et le salut viendra après la mort. Alors, on a donc poussé les chrétiens à avoir l'idée seulement de sauver leur âme, de sauver leur âme. Et on a oublié les demandes du pater qui demandent un règne terrestre du Christ. On a eu une piété individuelle, une espérance individuelle, et on n'a pas vu que le grand désir de Dieu, c'est que la terre entière se soumette à sa volonté. Il faut qu'il règne et que tous ses ennemis soient mis sous ses pieds. Et le dernier ennemi vaincu sera la mort. Voilà. C'est l'espérance apostolique. Tu posais tout à l'heure la question du quand. Quand le royaume de Dieu viendra-t-il? Eh bien, sur ce point, nous avons un texte de saint Irénée extrêmement intéressant à la fin de son cinquième livre « Adversus Hérésès ». Il dit lui-même avoir reçu de saint Polycarpe et de saint Jean un enseignement du Seigneur, qui dit « 1000 ans sont aux yeux de Dieu comme un jour. Or, dans la Sainte Écriture, nous savons que le monde a été créé en 6 jours, plus un septième, pendant lequel Dieu s'est reposé. Donc, nous pouvons extrapoler en quelque sorte, par rapport à l'histoire de l'humanité, et considérer qu'entre Adam et Abraham, il y a 2000 ans, c'est-à-dire 2 jours. Entre Abraham et Jésus-Christ, il y a aussi 2000 ans, 2 jours. Et entre Jésus-Christ et son retour, 2000 ans plus les 1000 ans du septième jour.
Ça, c'est saint Irénée qui le dit.
C'est saint Irénée qui le dit, et qui dit avoir reçu cet enseignement de saint Jean.
Oui. Donc on est tout près du retour.
Actuellement, nous sommes tout près du retour. Les 2000 ans sont achevés. Le temps des nations est achevé, c'est-à-dire le temps de l'Église est achevé. Car le temps des nations, c'est le temps de l'Église, c'est-à-dire le temps pendant lequel la parole de Dieu est adressée aux nations. Allez enseigner toutes les nations. Ça ne veut pas dire que toutes les nations croiront, bien sûr. Donc, nous sommes arrivés au dernier temps. D'ailleurs, il y a des signes des temps. On entend parler tous les jours d'Israël, qui est obligé de défendre ses droits contre les Palestiniens. Et finalement, l'information nous montre que tout va se concentrer sur le Moyen-Orient.
D'ailleurs, Israël est revenu sur sa terre.
Israël est revenu sur sa terre depuis déjà une cinquantaine d'années. Donc, la dernière génération d'Israël, en quelque sorte.
Donc, on arrive au septième jour.
On arrive au septième jour. C'est-à-dire le jour du règne du Christ sur la terre. Et ce jour va être inauguré par son retour, par le jugement des nations.
C'est ce qu'annonce l'Apocalypse ?
C'est ce qu'annonce l'Apocalypse, oui. Chapitre 20. C'est le règne des 1000 ans, avec les saints qui seront en quelque sorte les ministres et les messagers du Christ.
Donc après l'Église, on aura le royaume.
On aura le royaume après l'Église. Le royaume sera en quelque sorte enfanté par l'Église, puisque la foi n'aura pas changé. Mais la différence entre l'Église et le royaume, c'est que l'Église a professé la foi, tandis que dans le royaume, la foi sera appliquée.
C'est ça. Et Dieu se reposera.
Et Dieu se reposera parce qu'il verra ses créatures soumises à sa volonté, à son bon vouloir.
Et sa paternité sera manifestée.
Manifestée, et son nom de Père sera sanctifié. Voilà.
Le retour du Christ, c'est un dogme de foi.
Le retour du Christ est un dogme de foi, bien entendu. comme d'ailleurs au cours de cet entretien, nous nous sommes appuyés uniquement sur les vérités de foi. Et c'est là qu'il faut bien distinguer justement entre l'enseignement ordinaire, c'est l'enseignement du pape dans ses encycliques, dans ses discours, c'est l'enseignement des évêques dans leurs lettres pastorales, c'est l'enseignement de tous les prédicateurs qui parlent du haut de la chair et qui exhortent les fidèles à pratiquer les vertus évangéliques. C'est l'enseignement ordinaire. Cet enseignement ordinaire n'a pas de caractère infaillible. Bien entendu, il est intéressant, il faut en tenir compte, mais il n'a pas un caractère infaillible. Et l'on voit en effet qu'au cours des âges, il y a des papes qui ont dit des choses qui n'étaient pas justes. Beaucoup d'évêques se sont trompés, même sur des points importants. Et dans le gouvernement de l'Église, il y a eu des erreurs manifestes. C'est l'enseignement ordinaire. Tandis que l'enseignement infaillible, c'est tout autre chose. C'est lorsque l'Église, s'appuyant sur l'assistance qu'elle a du Saint-Esprit pour préciser la foi, l'Église se réunit en concile œcuménique et, vis-à-vis des problèmes qui se posent à ce moment-là, elle définit la foi.
Le pape peut définir la foi
Le
aussi.
Le pape peut aussi définir la foi par un enseignement infaillible. Et dans ces décrets où la foi est définie, c'est-à-dire la vérité divine, la révélation divine, il y a des formules qui sont employées et qui montrent qu'on a affaire à un enseignement infaillible dont il faut tenir le plus grand compte.
Pour obtenir le salut.
Pour obtenir le salut. Et ces formules sont, nous définissons et nous proclamons que telle chose est vraie par rapport aux négations de divers hérétiques. Voilà.
D'ailleurs, bien souvent, ce sont les hérétiques qui ont, en quelque sorte, obligé l'Église à définir la foi.
La plupart du temps, parce que l'Église a professé la foi et les choses étaient admises tout simplement, parce que c'était évident dans les Écritures que c'était la tradition de l'Église. Et puis tout d'un coup, il y a eu des gens qui ont nié certains points. Alors là, l'Église est obligée de définir, voilà. En disant « Attention,
attention,
il ne faut pas se tromper !»
Prenons un exemple, l'Immaculée Conception.
Eh bien oui, justement, l'Immaculée Conception a été professée dans l'Église depuis la plus haute antiquité, chez les Grecs surtout, et en Occident par les chanoines de Lyon au Moyen-Âge. Et certains théologiens se sont opposés en disant « Si Marie a été conçue de Saint Joachim et de Sainte Anne, elle ne peut pas être Immaculée Conception. Elle a traîné avec elle toutes les tares du péché originel. » C'est alors que l'Église a été troublé par ces propositions et au milieu du siècle dernier, on a demandé au pape de définir le dogme. Et il l'a fait avec une grande solennité. C'est l'événement le plus important du 19e siècle, en 1854, où il a dit « Oui, Marie a été préservée de toute tâche du péché originel dès le premier instant de sa conception. »
Et il l'a fait après une étude sérieuse.
Sérieuse, bien entendu.
Donc, elle a été conçue sans péché.
C'est-à-dire conçue dans la justice. Comme Isaac était de l'esprit, au dire de saint Paul, nous devons croire que Marie était aussi de l'esprit. Ainsi, cette génération sainte que nous attendons pour le royaume, elle se trouve déjà réalisée en la personne de la bienheureuse Vierge Marie.